Marco Douiman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le président de la République a annoncé l'envoi ce vendredi de 390 tonnes de minerais divers. Le Burundi attend des rentrées en devises évaluées à plus de 6 millions de dollars américains pour les minerais déjà exportés vers la Chine. La Cour des comptes devient une véritable juridiction financière, ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Ce conseil a également recommandé de déclencher le processus de délogement des occupants actuels de toutes les maisons appartenant à l'État. Vous aurez les éclairages du secrétaire général de l'État. La mission de la délégation africaine du Fonds monétaire international au Burundi donne espoir que le pays veut améliorer le secteur économique et financier. Vous entendrez l'appréciation du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Plus de 6 millions de dollars américains, c'est ce que va rapporter les quantités de minerais déjà exportées vers la Chine. Mais la Banque centrale n'a pas encore encaissé les recettes d'exportation. Précision ce vendredi du chef de l'État lors d'une conférence de presse après l'exportation d'un troisième convoi de 390 tonnes de minerais tels les terres rares, titane, améthyste et du beryllium. Et dans ce point de presse, le président Evariste Ndayishimiye a en outre indiqué que durant les 100 jours consacrés à la recherche des minerais, 29 sites de minerais ont été identifiés et 13 ont déjà été exploités. De plus, 27 sortes de minerais ont été identifiés et l'or existe dans 119 sites. La Cour des comptes devient une véritable juridiction financière. Elle ne se limite plus à contrôler les comptes et les juge désormais. Cette évolution ressort du projet de loi fixant mission, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que la procédure applicable devant la dite Cour, telle qu'adoptée par le Conseil des ministres de ce mercredi. Selon le compte-rendu présenté par le secrétaire général de l'État, cette avancée vise à aligner le fonctionnement de la Cour sur les standards internationaux et les meilleures pratiques en matière de gouvernance financière. Suivez Jérôme Niyonzima.
La Constitution de 2018 confie à la Cour des comptes une nouvelle mission, celle de juger les comptes. Par ce fait, elle a voulu conformer le travail de la Cour aux normes internationales et aux bonnes pratiques des autres pays, car la mission première des Cours des comptes est celle de juger les comptes. Ainsi, la Cour des comptes devient une juridiction financière et le magistrat de la Cour des comptes n'est plus mandataire. Il devient juge financier à l'instar du juge pénal, du juge civil, du juge commercial, du juge social ou du juge administratif dans les autres juridictions. À côté de cette mission juridictionnelle introduite par la Constitution de 2018, la Cour des comptes garde la mission de contrôle non juridictionnel s'exerçant sous les aspects de contrôle financier, de contrôle de légalité, de contrôle de bon emploi des deniers publics, ainsi que la mission d'information du Parlement sur le résultat de ces missions de contrôle. Après échange et débat, le projet a été adopté par le Conseil des ministres avec quelques corrections de fond comme de forme.
Ce Conseil des ministres recommande la récupération de toutes les maisons de l'État, tant à l'intérieur du pays qu'à Bujumbura, et de déclencher le processus de délogement des occupants actuels. Cette décision ressort de la note sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État, analysée lors de cette réunion. Selon le compte-rendu lu par le secrétaire général de l'État, cette mesure permettra aux nouvelles directions provinciales et aux départements communaux de disposer de bureaux appartenant à l'État, évitant ainsi le recours à la location. Suivez encore une fois Jérôme Niyonzima.
Cette note donne la situation des maisons de l'État louées d'une part et des maisons louées par l'État d'autre part. Les maisons de l'État inoccupées et celles occupées illégalement par des particuliers ainsi que d'autres propriétés foncières de l'État. Après analyse de la situation, il a été notamment recommandé de 1. Récupérer toutes les maisons de l'État tant à l'intérieur du pays qu'à Bujumbura. Deuxièmement, engager le processus de délogement des occupants des maisons de l'État afin de permettre l'affectation de ces bâtiments à l'usage des services de l'État, Cela permettra aux nouvelles directions provinciales et départements communaux de disposer des bureaux de l'État sans devoir recourir à des locations. Les directions provinciales seront réparties dans toutes les anciennes provinces pour éviter de les concentrer en un même lieu. Troisièmement, identifier toutes les maisons de l'État abandonnées en vue de procéder à leur réhabilitation. Quatrièmement, inventorier toutes les propriétés foncières de l'État et les faire enregistrer pour mieux les sauvegarder. Cinquièmement, faire en sorte que chaque commune puisse disposer d'un terrain d'au moins 1 hectare réservé à la construction des infrastructures publiques. Sixièmement, élaborer un schéma d'aménagement du territoire en vue de connaître les espaces destinés à la construction, à l'agriculture, aux routes, à l'industrie, etc.
Jérôme Néyonzima, il est secrétaire général de l'État. La visite de la délégation africaine du Fonds monétaire international au Burundi donne espoir que le pays veut améliorer le secteur économique et financier. Le président de l'OLICOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, indique qu'une telle visite se fait sur demande d'un pays afin de pouvoir appuyer et conseiller techniquement son système financier et économique. Gabriel Roufsiri trouve que les experts de ces institutions financières qui accompagnent le Burundi dans ses politiques économiques vont continuer à l'appuyer, mais le pays doit être flexible en matière d'engagement des réformes.
Le Burundi travaille pendant plusieurs années avec cette institution en matière de réformes économiques et financières. Ces institutions, dont Bretton Woods, dont le FMI et la Banque mondiale, accompagnent le Burundi dans ses politiques économiques. C'est à travers la demande d'un pays que ces institutions viennent pour appuyer et conseiller techniquement, des fois même financièrement, les pays pour améliorer son système financier, son système économique. Comme cette délégation est venue, nous pensons que c'est une bonne chose. Nous avons entendu que cette fois-ci, la mission technique viendra en février pour accompagner le gouvernement comme il le fait par ailleurs dans la réalisation du plan de réforme macroéconomique qui a été approuvé par le gouvernement. C'est un plan un peu global de 2025-2027. Pour nous, ça nous donne de l'espoir. Seulement ce que nous pouvons demander, il faut que le gouvernement du Burundi soit flexible. Souvent, le gouvernement du Burundi est très rigide en matière d'engagement des réformes. Donc, nous pensons que le gouvernement doit être flexible et accepter ses appuis des partenaires.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
La radio Isanganiro, dans ses émissions et les nouvelles qu'elle diffuse, le fait correctement et possède une orientation claire. D'après le vice-président de l'association AC-Génocide, Chirimoso, au moment où le 18 novembre prochain, Isanganiro célèbre son 23e anniversaire, Terence Mouchano félicite la radio Isanganiro pour son dévouement et l'encourage à continuer à bien travailler.
Je félicite la radio Isanganiro pour ses émissions, pour ses nouvelles. Je félicite la radio Isanganiro pour avoir repris ses activités après la crise de 2015. Vous avez subi de l'épreuve comme d'autres radios qui existaient, mais quand même vous avez pu la surmonter. Vous êtes à féliciter. Il y a une émission très intéressante, La Mosaïque et Kunama. Ce sont des émissions qui appellent les plusieurs intervenants de différents points de vue, des points de vue contradictoires et d'ailleurs constructifs. Mais pendant cette période de commémoration, toujours vous vous souvenez de nous. Autre chose, je constate que quand même vous travaillez correctement. C'est-à-dire que la ligne éditoriale et journalistique, vous l'acceptez, vous la suivez comme il faut. La perfection n'étant pas de ce monde. On souhaiterait que vous travailliez comme d'autres médiums, type BBC, France-Afrique, La Voix d'Amérique. Mais nous savons le contexte dans lequel vous travaillez. Le contexte dans lequel vous travaillez au pays ne vous le permet pas. Mais nous encourageons toujours de faire de votre mieux.
De son côté, la présidente de l'Association des journalistes sportifs du Burundi salue l'engagement de la radio Isanganiro dans le développement du sport au Burundi. Liliane Nshimirimana rappelle que cette radio a été la première à lancer la chronique sportive et à assurer la retransmission en direct de certaines compétitions internationales. Elle profite de cette occasion pour demander à la direction de ce médium d'augmenter le temps d'antenne dédié aux émissions sportives et de faire en sorte que la télévision Isanganiro soit accessible sur la chaîne Canal+, plateforme largement suivie par les passionnés de sport au Burundi.
Je salue l'initiative de la radio Isanganiro parce que la radio Isanganiro, c'est la première radio qui a introduit dans son journal, de tous les lundis, si je ne me trompe pas, la chronique sur le sport. La radio Isanganiro, je dirais qu'elle a inspiré d'autres stations de radio d'insérer cette rubrique juste après le journal. Aussi, c'est la radio Isanganiro. Je me rappelle bien, dans les années 2006, c'est à la radio Isanganiro qu'on a commencé à faire la retransmission en direct des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, des matchs de la Coupe d'Europe, même la Coupe du Monde. Donc là aussi, la radio Isanganiro a inspiré pas mal de stations de radio ici chez nous pour faire la retransmission des émissions en direct. Autre chose que j'apprécie sur la radio Isanganiro à travers ces émissions de sport, c'est que les informations sportives diffusées à la radio Isanganiro, ce sont des informations qui sont bien collectées, traitées et diffusées. Donc là, vraiment, je salue ce professionnalisme de la radio Isanganiro.
Et quelle est votre suggestion?
La suggestion, c'est que la tranche de l'émission de sport, c'est une heure si je ne me trompe pas. Donc, il faut augmenter le volume horaire des émissions sur le sport. Il faut qu'il y ait une émission sportive, par exemple, la soirée. Si c'est possible, tous les jours là, ça serait encore mieux. Autre suggestion, c'est que beaucoup des amateurs du sport sont branchés sur les décodeurs de Canal+. Il serait mieux vraiment que la chaîne de télévision Isanganiro soit aussi sur Canal+, et là, ça permettrait aux amateurs de sport d'être branchés facilement.
Favoriser l'accès des femmes et les personnes handicapées aux services numériques, accroître la connectivité, développer les infrastructures, compte parmi les recommandations formulées après avoir identifié les défis qui freinent le secteur de l'économie numérique au Burundi. Cela ressort de l'atelier d'échange sur l'économie numérique organisé au Burundi. Les participants à cette activité ont souligné que l'économie numérique ne peut devenir une réalité tant que les contraintes liées à l'énergie et aux ressources humaines ne sont pas résolues. Ils invitent tous les ministères à s'impliquer davantage dans le développement du numérique afin d'améliorer l'économie du pays. Un reportage d'Alexis Ndaïsenga. Malheureusement, il n'est pas encore là.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Le permis d'exploitation d'une petite mine, valable pour 10 ans et renouvelable dans les mêmes formes que la demande initiale, par période de 5 ans, chaque fois jusqu'à l'épuisement des réserves. Cela ressort de l'article 98 du Code minier sorti le 4 août 2023. Le demandeur doit présenter une étude de faisabilité bancable agréée par une maison spécialisée, selon l'article 94 de ce même code. Omer Douayo.
Selon l'article 93 de ce code, l'octroi d'un permis d'exploitation de petites mines donne droit à l'État à une participation à titre de propriétaire du sous-sol au capital social de la société d'exploitation d'au moins 16%, augmenté de 5% à chaque renouvellement pendant toute la durée de vie de la mine. La participation, libre de toute charge, ne doit connaître aucune dilution. En cas d'augmentation du capital social, l'article 94 ajoute que cet octroi de permis d'exploitation de petites mines est subordonné aux capacités techniques et financières du demandeur. Ce dernier, précise cet article, doit d'abord présenter une étude de faisabilité bancable agréée par une maison spécialisée, une étude d'impact environnemental et socio-économique agréée par le ministre ayant l'environnement, une convention minière signée par le requérant et annexée à la demande de permis d'exploitation de petites mines et emploi d'exploitation dans le respect du présent code et des termes de la convention minière. Cette convention, stipule l'article 96, doit au minimum contenir des dispositions relatives aux engagements des requérants en matière de création d'emplois, de contributions socio-économiques, de recrutement et autres, et doit préciser les conditions et les modalités de partage de rentes minières.
En bref, ce sera pour terminer ce journal. Suite à l'annulation à la dernière minute d'un match amical du Burundi contre la Zambie, la Fédération de football du Burundi, FFB, a décidé de porter plainte contre la Fédération zambienne de football. Tout avait pourtant bien commencé lorsque la FFB avait sollicité un match amical avec la Zambie, qui avait accepté. La demande avait été officiellement communiquée à la FIFA, qui l'avait également validée, comme l'a confirmé Élisée Niyubahwe, secrétaire générale de la FFB, ce 14 novembre 2025 lors d'une conférence de presse. Mais à la surprise générale, la sélection zambienne n'est jamais arrivée au Burundi et la FFB a appris par les réseaux sociaux que la Zambie allait plutôt affronter l'Angola à la même date. La FFB affirme pourtant avoir rempli toutes ses obligations pour accueillir le match en dépassant plus de 200 000 dollars. Face à cette situation, la FFB a mandaté un avocat marocain pour défendre ses intérêts après avoir tenté à plusieurs reprises de régler la situation à l'amiable sans réponse positive de la part de la Zambie. Et puisqu'on parle football, un but de Chancel Mbemba dans le temps additionnel a offert à la République démocratique du Congo une victoire précieuse 1-0 face au Cameroun en demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Le match s'est joué ce jeudi à Rabat. Les Léopards disputeront dimanche la finale de ces barrages contre le Nigeria qui s'est imposé par 4-1 face au Gabon avec une qualification mondiale en jeu. Cette défaite marque une immense déception pour les Lions indomptables qui manque ainsi une 9e participation au mondial. De son côté, la RDC n'a plus retrouvé la phase finale d'une Coupe du Monde depuis un demi-siècle. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.